Décryptualité, semaine 6 de l'année 2022. Salut Manu.
Salut Luc.
Bon, alors j'entame directement avec le sommaire. Le monde informatique faille Log4j, l'open source n'est pas le problème. Un article de Michael Cooney.
Alors quelque chose de presque positif sur un champ de ruines, parce que Log4j c'est une faille qui est gigantesque et qui a des impacts un peu partout dans le monde Java. Donc c'est là où je travaille professionnellement, je vois un peu ce qui se passe. Et donc là, au Sénat américain, il y a des grosses boîtes qui sont venues discuter de tout ça. Et pas que, il y a Apache notamment, une association. Et donc, il en ressort que c'est pas la faute fondamentalement du logiciel libre et du modèle du logiciel libre, ce qui est plutôt positif. Donc il y a des gens qui soutiennent tout ça, mais qu'il faut faire attention et que ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire que c'est les problèmes de ce qu'ils appellent la supply chain, la chaîne des fournisseurs. Les logiciels qu'on utilise contiennent des briques qui peuvent elles-mêmes contenir des outils, qui peuvent eux-mêmes contenir des logiciels ou des librairies qui viennent d'ailleurs. Il faut maîtriser tout ça, c'est difficile, il y a des efforts à faire.
ZDNet France, Google et Microsoft financent la sécurité de logiciels open source. Un article de Thierry Noisette.
Eh ben voilà les efforts. Hein. Donc malheureusement, il semblerait que ça vient des gros, mais en même temps, il faut prendre le fric là où il est, hein, on pourrait le dire. Alors c'est l'OpenSSF, hein, l'Open Source Security Foundation, qui a l'air de travailler avec ces gros acteurs-là, à essayer d'analyser, de creuser, chercher les failles, faire des tests automatisés, ça, je ne pense pas l'avoir vu passer avant, mais donc vraiment essayer de circonscrire les problématiques de sécurité des logiciels libres les plus importants et les plus utilisés. Donc ça va dans le sens justement précédemment, et on sent que cette faille Log4j, elle a vraiment remué du monde. C'est un tremblement de terre, quelque part, on peut le voir comme ça, qui a des effets secondaires intéressants. Économiquement, on va voir tomber de l'argent, hein. Il y a de la thune qui va arriver.
C'est vraiment le sujet du moment, on en a parlé la semaine dernière, on en avait parlé la semaine d'avant, donc ça bouge beaucoup. Next Impact, pour la CNIL aussi, les transferts internationaux de Google Analytics sont illégaux, un article de Marc Ress.
Ah, on était vraiment trop précurseurs la semaine dernière. Bon, il y avait déjà d'autres articles sur le sujet, mais le RGPD, donc, et puis globalement l'Europe se rend compte que transférer des données aux États-Unis dans des entreprises peut-être sympathiques, peut-être qui font de leur mieux, c'est faire en sorte que ces données soient utilisables à volonté par les services secrets américains. C'est dans la loi américaine, donc il n'y a rien à y faire. Hein. Donc la seule solution, c'est de ne pas transférer les données. C'est le Privacy Shield, hein, on en parlait, mi-2020. C'était tout un système qui permettait de considérer légalement que les données transférées aux États-Unis étaient aussi bien protégées qu'en Europe. Ce Privacy Shield, en 2020, on a considéré que non, il ne tenait plus, il n'y avait plus lieu de faire cette considération forte. Et donc maintenant, un an et demi plus tard, enfin, il y a des conséquences dans les tribunaux. Donc là, c'est Google Analytics.
On en a parlé la semaine dernière, ouais.
Oui, mais là, c'est la France. Je pense qu'il y a d'autres pays qui vont faire des choses là-dessus.
Oui, bien sûr, parce que la semaine dernière, on parlait de l'Autriche. Et en fait, il y a une série de procédures qui ont été menées partout en Europe par une association qui s'appelle My Privacy is None of Your Business. Donc menée par Max Schrem, qui est un Autrichien qui s'était distingué il y a des années de ça alors qu'il était tout jeune, en allant extraire ses données personnelles de Facebook. Et il avait été le premier à le faire, il avait récupéré 3 tonnes de papier. Mais en tout cas, une très très belle opération, parce que les conséquences sont vraiment très sérieuses. On attend la suite. Silicone, logiciel libre, 5 outils made in France en observation au CIL, un article de Clément Oboïc.
Le CIL, c'est le socle interministériel de logiciels libres, une liste. Hein.
Oui, et donc ils lisent des logiciels libres. Donc là aussi, on avait conclu notre podcast de la semaine dernière en disant qu'avoir une liste de logiciels qui ferait partie des communs serait quelque chose d'utile. Et ben, on a eu le nez creux puisque on en parle cette semaine dans la presse. Ça se trouve, le gouvernement nous écoute.
Enfin.
Le monde informatique, souveraineté numérique, l'UE se cherche un socle technologique commun. Un article de Célia Seramour, donc encore une fois, pile dans ce qu'on disait la semaine dernière.
Alors, ça correspond à la présidence de l'Union européenne par la France. Et la France est, depuis déjà quelque temps, leader mondial sur l'open data, les communs, le partage de l'information avec les citoyens. Des choses très positives, qu'on aime bien, qu'on apprécie. Donc là, il y a quelque chose qui continue, qui se poursuit au niveau au-dessus. C'est pas juste la nation, c'est le continent qui va peut-être se bouger sur ce sujet-là. Donc c'est quelque chose de vraiment très intéressant et qu'on va regarder de près.
Tout à fait dans cette logique dont on parlait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils parlent de commun. Alors je ne sais pas si c'est commun juste l'adjectif. Je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'à la notion de commun, de bien commun ou bien public.
Allez, il faut que tu rappelles. Rappelle rapidement.
Alors bon, Elinor Ostrom, le prix quasi Nobel d'économie qui avait travaillé sur les communs, et montré qu'il existait des systèmes de gens qui étaient capables de gérer des communs, donc des biens. Dans son cas, qui sont des biens limitées en nombre, hein, comme des ressources d'eau, par exemple. Et évidemment, cette démonstration allait contre tout ce que l'économie orthodoxe pensait, en disant que c'était pas possible de s'entendre. Et donc, il y a plein de gens qui parlent de commun, à la fois sur des biens qui sont rares, et évidemment, dans le domaine de l'informatique, et le logiciel libre est très bien placé dans ces sujets-là. Et moi, j'aime bien dire de temps en temps « bien public », puisque c'est une définition qu'elle utilise dans son livre sur les biens qui ne sont pas rares et qui sont reproductibles, comme les informations et comme le code informatique.
On pourrait faire une remarque que je trouve intéressante, c'est que les États-Unis, ils sont plutôt en pointe sur certains aspects là-dessus. Les administrations américaines, dès qu'il y a le moindre document, dès qu'il y a la moindre information, automatiquement, tout tombe dans le domaine public. Et donc, les discours, les photos de la NASA, toutes ces informations sont partagées à tout le monde. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas en France. Et bien qu'il y a des efforts qui vont dans le bon sens, je pense à la CADA. Je sais pas, est-ce que tu rappelles ce que ça veut dire l'acronyme CADA ?
C'est Commission d'accès aux documents administratifs. C'est une sorte d'organisme public qui va donner son avis, hein, qui n'est pas une décision, c'est juste un avis, pour savoir si tel ou tel document administratif peut être communiqué au grand public.
À la demande du grand public.
À la demande du grand public, oui, bien sûr. Tu fais référence à un article donc de Next Impact de cette semaine, qui parle du combat engagé par Cosmo Venman, donc un artiste et entrepreneur qui veut récupérer les scans des statues de Rodin. Le musée Rodin a fait des scans de très bonne qualité et il veut les récupérer pour pouvoir faire des copies et les vendre. C'est un petit peu la foire d'empoigne parce que le musée ne veut pas partager ses scans. La CADA a dit si, hein, les statues sont dans le domaine public. C'est des données administratives, hein, le musée est une institution administrative. Et donc, ils ont fait passer des scans, mais qui sont manifestement des scans plus basse qualité, sans couleur. Ils ont rajouté, modifié les statuts pour mettre le nom du musée, en disant « Ah, c'est Musée Rodin, genre c'est à nous », directement dans la statue, quoi. Donc ils ont modifié l'apparence dans le modèle 3D. Et ils le savent parce qu'on connaît les dates à laquelle les scans ont été faits, et la date du fichier qui a été fourni n'est pas la bonne, et en plus de ça, c'est un format propriétaire.
Oui, mais alors, bon, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, je les comprends, les pauvres gars, parce que une bonne partie du business du musée Rodin, c'est de vendre des copies, qui sont en très peu de nombre, basées sur les moules originaux. En plus, ils ont les œuvres sous les yeux, sous les mains. Et donc, ils peuvent vraiment faire des produits de très haute qualité qui sont vendus, des fortunes, hein. Rodin, c'est quelque chose d'assez inestimable. C'est un bien mondialement reconnu. Et donc, ils ont un peu une poule aux œufs d'or avec toutes ces données.
Alors, peut-être pas, puisque le bien est effectivement inestimable et dans le domaine public. Donc, ça n'est pas à eux. Et c'est quelque chose qu'on a depuis des années. Isabelle Attard, qui était une ancienne députée et qui était l'ancienne conservatrice du musée de la tapisserie de Bayeux, avait expliqué que, voilà, pendant des années, l'État a dit au musée, vous devez en gros faire du pognon avec vos fonds, etc., parce qu'on ne veut pas vous financer. Et en faisant des sortes d'entrepreneurs de ces œuvres qui sont dans le domaine public. Et elle expliquait qu'il y avait des scans de très haute qualité de la tapisserie de Bayeux qui avaient été faits et que personne ne les avait jamais achetés ou presque. Mais qu'en revanche, on avait une pléthore de photos de super mauvaise qualité de la tapisserie partout sur Internet. Et que résultat des courses, le musée n'avait pas engrangé d'argent. Et qu'en plus, ce patrimoine de la culture n'était finalement très mal partagé. Alors je sais pas si le musée Rodin fait plus d'argent. Mais en tout cas, on est bien dans cette logique-là de dire qu'il faut exploiter le patrimoine. Et ça va vraiment à l'encontre justement de cette logique de commun, de dire non, il y a des choses qui sont à tout le monde, et le logiciel libre en fait partie. C'est parce que justement, on va avoir des communs, avoir des choses en partage où tout le monde va pouvoir les utiliser, tout le monde va pouvoir les améliorer, ou en faire des œuvres dérivées ou des choses comme ça, qu'on va accélérer notre fonctionnement, qu'on va être plus efficace, pouvoir créer des nouvelles choses. Alors que si effectivement on est en train de se raccrocher à notre petit bout de propriété, on n'avance pas.
On sent que le modèle français, probablement européen, il est à la traîne. Clairement, les administrations américaines ont quelque chose d'intéressant qu'on doit suivre. Et on doit réfléchir au bien commun, donc partager avec les citoyens. Bah voilà, les institutions, les administrations sont là au service et doivent permettre au partage de la culture. Bloquer le partage de la culture, voilà, c'est empêcher que la tapisserie de Bayeux soit bien reproduite, bien utilisée, bien connue de tout le monde. C'est dommage.
Oui. Alors sur les États-Unis, je ne sais pas s'il y a une vraie réflexion sur des biens communs. Je pense que comme c'est de l'argent public, ils disent « ça doit être à tout le monde » et que c'est vraiment une question bête et méchante qui a ses vertus. Hein. Si le contribuable paye, c'est à lui, point barre. Et de fait, ça va même bien plus loin puisque c'est le domaine public pour le monde entier. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait cette logique de bien commun. Et ce qui est intéressant, donc on l'a vu dans la revue de presse, c'est qu'aujourd'hui, on a ce truc sur le CIL qui veut voir des logiciels, sur la France au niveau de l'Union européenne qui veut avoir un socle commun et où, évidemment, le libre a toute sa place. Et du coup, ça pose un peu la question de, mais un commun numérique, jusqu'où ça va? Donc, il y a le code informatique, il y a ces briques qui sont utilisées pour faire du développement. Mais est-ce qu'il faut intégrer les œuvres, les numérisations d'œuvres qui sont dans le domaine public? Alors, je pense qu'on sera d'accord tous les deux pour dire que oui. Mais jusqu'où on peut aller, alors?
On peut aller très loin, et puis en tout cas, on peut aller jusqu'à faire des listes, parce que les listes, c'est bien. Les entreprises aussi s'y attellent, elles sont en train de regarder ce qu'elles utilisent et de quoi elles ont besoin. Et puis, on peut aller encore plus loin que ça, on peut réfléchir à l'utilisation de nos données personnelles. Nos données personnelles, il y a des choses peut-être qu'on devrait savoir, qu'on devrait connaître, et il y a peut-être quelque chose à creuser aussi dans ce sens-là. Peut-être les institutions pourraient nous aider.
C'est problématique. Tu dis tes données personnelles, est-ce qu'elles doivent être privées ou est-ce que ça doit être un bien commun? Est-ce qu'on va rendre toutes les données personnelles publiques à n'importe qui? Peut-être en les anonymisant? Et c'est peut-être finalement une façon de casser les GAFAM, de dire que cette masse de données qu'ils vont privatiser et exploiter, finalement, c'est ça qui fait leur force et leur richesse. Et on l'a vu la semaine dernière, hein, Facebook s'est plaint de ne plus pouvoir faire des milliards à cause de ça. Mais ça me paraît quand même un petit peu compliqué. En tout cas, il faudrait trouver comment on peut rendre public des données personnelles tout en respectant la vie privée des gens. Ça va être un peu compliqué.
Eh ben, il y a des systèmes qui sont en train d'être mis en place. Ça s'appelle les cohortes. Je ne connaissais pas bien. C'est des concepts de statistiques, de démographie. Je sais que Google bosse à ça. Il me semble que Firefox souhaite travailler avec Facebook, je crois, pour essayer de... Alors, pas complètement anonymiser parce qu'il ne faut pas rêver, mais en tout cas, d'atténuer la connaissance précise des personnes. Un système de cohortes, ça veut dire que on va considérer tu es un parmi 10 000 dans tes catégories. Et donc, quand tu vas être vendu à un publicitaire, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est pas autre chose, eh bien, quand tu vas visiter une page web, ta visite de page web va être vendue aux enchères, les publicitaires vont savoir que tu fais partie de telle cohorte, et ils vont enchérir pour essayer de t'afficher une publicité. Eh bien, tout ce système-là, il est un petit peu opaque, hein, j'aimerais bien être au courant, un peu mieux. Et puis, il y a des évolutions sur la gestion de ces données privées, tu vois, les cohortes. C'est quand même plutôt intéressant comme mécanisme.
Moi, je préférerais pas de publicité, hein, parce que c'est quand même, dans l'ensemble, bien de la merde pour moi. Et ce qui me semble important, c'est qu'on a besoin d'avoir confiance dans l'informatique et dans les données. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se posent des questions en disant « Mais je vois des pubs qui correspondent à des trucs dont j'en ai parlé à l'oral, mais j'ai jamais cherché sur Internet. C'est comme si mon téléphone m'écoutait. » Moi, ça m'est arrivé une fois de faire un examen médical, d'avoir un résultat et de recevoir une publicité par la poste qui tombait pile poil sur le problème qu'on m'avait trouvé. Voilà, je suis passé en mode parano en me disant mes données de santé ont fuité, etc., etc. Et c'est en passant chez un ami qui a le même âge que moi où j'ai vu la même pub. Et en fait, bon, ils ont juste pamé tous les gens qu'ils avaient dans leur fichier et qui étaient dans la bonne tranche d'âge. Mais sauf que tant que j'ai pas vu ce courrier chez quelqu'un d'autre qui n'a pas le problème, je sais pas en fait. Donc du coup, mon imagination part dans tous les sens. C'est essentiel que le public puisse avoir confiance là-dedans, ce qui veut dire que dans nos communs numériques, d'une façon ou d'une autre, il faudrait intégrer la façon dont l'information est formée, mise en forme. Il y a les moteurs de recherche, il y a la façon dont on va catégoriser les gens. Et si on veut piloter un pays ou l'Europe, il y a malgré tout de l'intérêt à faire des statistiques et avoir des infos sur la population. Ça aide à mieux gouverner, mais tout ça en respectant la vie privée.
Oui, c'est le sujet des algorithmes hein, qu'on avait déjà abordé plusieurs fois, qui est plutôt intéressant, moi j'apprécie beaucoup. Et effectivement, les algorithmes, souvent les entreprises les gardent jalousement, et parmi les leviers que les États ont, eh bien ils pourraient obliger, légalement, y a des lois, à rendre transparent ces algorithmes, à indiquer comment ils fonctionnent, pourquoi est-ce que vous voyez une chose à l'écran, qu'est-ce qui a été mis en avant, suivant quel principe, dans quelle cohorte vous êtes placé, combien vous êtes vendu aux enchères quand vous êtes vendu aux enchères. Il y a des données qui doivent pouvoir être rendues plus visibles. Et donc, est-ce que c'est des communs numériques? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a des choses à faire sur ce point-là.
Oui, et je pense aussi à une forme d'interopérabilité. Aujourd'hui, on a des grosses plateformes. On pense à Amazon qui en abuse abondamment pour arnaquer ses vendeurs tiers, etc. Et pour moi, l'interopérabilité, alors à voir comment, parce que je n'ai pas de recette miracle, mais essayer de casser ces gros acteurs qui maîtrisent complètement leur système pourrait être aussi un bien commun numérique. Ça reste des pistes très très floues, bien sûr. Hein,
on va creuser dessus. Je te propose qu'on en discute la semaine prochaine.
Faut voir. Allez, salut tout le monde.
Salut.